Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Bonjour Widad Ayad.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Réseauville. Réseauville, c'est une association basée à Nantes, mais vous agissez sur la Bretagne et les Pays de la Loire et vous êtes centre ressources pour les acteurs de la politique de la ville. C'est très concret. Au moment où on enregistre cette émission, on est situé dans un quartier dit de politique de la ville, celui de Bellevue, où est Jet FM. Donc, ici, par exemple, Bellevue, 16 000 habitants à peu près, un taux de pauvreté qui se situe aux alentours de 40%. On est sur des taux de 3 à 4 fois supérieurs aux moyennes métropolitaines. Et c'est bien ça, si on essaye d'expliquer dans un premier temps simplement pourquoi il existe une politique de la ville, c'est vraiment venir mettre de l'action publique pour essayer de compenser des inégalités territoriales identifiées comme celles qui sont à Bellevue, là, autour de nous.
Oui, tout à fait. Donc, les centres de ressources politiques de la ville, donc Réseauville, c'est un centre de ressources politiques de la ville qui existe depuis plus de 20 ans, qui a un territoire, un rayonnement pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Il existe 18 autres centres de ressources politiques de la ville et qui ont à chaque fois une personnalité morale différente. Ce peut être des associations ou des groupements d'intérêt public. Et nous, notre rôle en tant que centre de ressources politiques de la ville, il est bien d'agir pour les acteurs de la politique de la ville. Donc derrière acteurs, il y a les élus des collectivités locales. Donc souvent, ce sont les élus qui ont la thématique politique de la ville ville ou métropole. Vous avez également les services de l'État. Nous, notre action d'accompagnement, c'est notamment pour les délégués du préfet, les habitants. Des quartiers prioritaires, les associations implantées en QPV et les bailleurs, évidemment.
Donc tous ceux qui se concentrent sur ces quartiers. Si on revient un petit peu justement sur le pourquoi une politique de la ville et donc sur les inégalités territoriales dans ces quartiers, un peu moins de 1400 territoires en France métropolitaine au total, 10% de la population française. Peut-être qu'on peut situer déjà géographiquement et quantitativement sur les Pays de la Loire ce panorama des quartiers dits populaires qui font l'objet d'une politique de la ville.
Alors, pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, ce sont 19 quartiers qui sont classés en quartiers politiques de la ville, donc qui sont répartis dans 31 communes différentes. Après, il y a effectivement une concentration en métropole nantaise, parce qu'il y a 15 quartiers politiques de la ville à Nantes Métropole, 12 pour Nantes, 1 à Saint-Herblain, donc
Bellevue.
Voilà, Bellevue, Rezé et Orvault également. Et effectivement, vous avez raison de revenir sur la question de pourquoi on agit envers ces quartiers.
Comment on les définit déjà, ces quartiers-là ?
Alors, il y a un premier critère, c'est celui de la pauvreté. Donc voilà, c'est-à-dire que ce sont les habitants les plus pauvres qui habitent dans ces quartiers. Donc c'est-à-dire qui ont un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est celui qui partage la population en deux. Donc il y a 50% qui gagnent plus de 1 800 euros et 50% qui gagnent moins de 1 800 euros. Et nous, c'est vraiment ceux qui sont, qui sont encore plus pauvres, puisque ce sont ceux qui sont en dessous de 60% du revenu médian. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, l'unité urbaine. Donc, c'est-à-dire une unité de 1000 habitants minimum.
Oui, vous n'allez pas voir sur les micro-zones. Là, on est quand même sur des grands ensembles.
Non, même si, en fait, la dernière circulaire du 31 août, la circulaire de Sabrina Agresti-Rouache, qui est notre secrétaire déléguée, qui est la secrétaire déléguée à la politique de la ville, a posé le fait que nous pouvions agir sur les territoires de micro-poches de pauvreté. Donc voilà, donc il y a des crédits qui vont être spécifiquement affectés sur ces territoires qui concentrent de la pauvreté, mais qui ont moins de 1000 habitants. Il ne faut pas oublier que, en fait, la politique de la ville, elle est née dans un moment, elle est née dans les années 70, que c'est une politique non linéaire, qui s'est souvent faite par à-coups, et que une des premières choses, c'était de dire attention sur ces territoires, le bâti se dégrade, attention, ce sont les personnes les plus pauvres qui habitent, attention, le droit commun n'est plus sur ces territoires, et que la première action qui était posée, c'était vraiment la question du droit commun. Comment on fait revenir sur ces territoires le droit commun ?
Alors quand on dit droit commun, est-ce qu'on peut préciser, c'est l'accès à l'égalité dans l'éducation, dans la scolarisation, l'accès à l'emploi,
c'est... Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que ces habitants qui ont moins et un peu plus ou au même titre que les autres. C'est l'illustration du principe d'égalité républicaine. C'est-à-dire que quand on n'a plus de services publics dans ces quartiers, comment on les fait revenir ? Quand on n'a plus de bibliothèque dans ces quartiers, comment on la fait revenir ? Quand on n'a plus de médecins dans ces quartiers, comment on les fait revenir ?
Oui, on peut préciser que ces quartiers sont particulièrement touchés par les problématiques de déserts médicaux, alors même qu'on est en zone métropolitaine un peu plus épargnée que d'autres territoires plus ruraux, les quartiers populaires sont face à des pénuries de pratiquants médecins, en tout cas de ce secteur-là, plus que d'autres territoires. C'est un exemple très concret des inégalités qui sont là, hein, qui sont factuelles. Donc l'État, vous le disiez, Wydad Ayad, je rappelle que vous êtes directrice de Réseau Ville, il y a des politiques publiques pour essayer de venir un petit peu compenser cette pauvreté qui est à l'œuvre. De quel ordre, d'où viennent les financements? C'est ancien, ça date des années 70, ça a commencé dans les années 70, mais aujourd'hui on en est où dans ce...
Alors aujourd'hui, il y a une augmentation des crédits, même si tout le monde, je pense, l'a en tête. Hein, il a fallu faire des économies au début de cet exercice budgétaire, puisque le taux de croissance qui avait été imaginé était beaucoup plus faible que prévu. Donc nous, pour illustration, on a perdu 50 millions d'un coup. Donc il y a eu une augmentation des crédits et les crédits qui ont été accordés, c'était pour notamment le déploiement de... Enfin, il y a eu des crédits supplémentaires, je crois qu'il y a environ une vingtaine de millions pour le déploiement des cités éducatives. Donc effectivement, en fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, les crédits ont augmenté, mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que la population qui habite ces territoires est de plus en plus pauvre. Donc c'est l'augmentation des crédits, elle ne vient pas compenser la pauvreté qui existe déjà ou l'inégalité territoriale qui existe.
Et l'accroissement, en fait, la
concentration.
Et l'accroissement,
bien sûr. Et donc, malgré une augmentation des crédits, il y a eu aussi une augmentation du nombre de quartiers prioritaires et du nombre d'habitants qui relèvent des crédits politiques de la ville. Les financements, donc souvent, ce sont des contrats de ville. Donc, c'est bien le PCI, ce qu'on appelle le CI, c'est la communauté de communes qui négocie le contrat de ville. Et ce sont des crédits qui viennent de l'État, qui viennent de la collectivité et qui peuvent venir
donc
d'autres
là, ça
acteurs.
Ça va être ville, métropole.
C'est ville, métropole, État. Ça peut être d'autres acteurs comme les caisses d'allocation familiale. Ça peut être par exemple, dans le cadre de... Il y a d'autres politiques publiques. L'idée, c'est vraiment l'articulation avec d'autres politiques publiques. Donc, ça peut être aussi avec le pacte des solidarités. Donc, ça, c'est le commissariat à la pauvreté et comment on articule les politiques publiques. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de crédits qui vont être fléchés sur ces territoires. Et donc, il y a toute une phase de contractualisation, de négociation avec d'autres acteurs publics. Il y a les départements qui peuvent financer, les régions qui financent. Et donc, voilà. Mais c'est bien une politique publique de l'État, malgré tout.
Alors, pour faire quoi ?
Pour faire quoi ? Alors, pour faire un tas de choses. Alors, la loi Lamy qui est de 2014, elle posait trois piliers. Donc il y avait bien un pilier autour de ce qui est appelé la cohésion sociale, donc des actions qui peuvent être de la parentalité, des actions auprès des jeunes, sur la culture, sur les questions de tranquillité, sur les questions de réussite éducative, un tas de sujets, tous les des questions de santé.
Une association
aussi.
Qui fait du soutien, de l'aide aux devoirs pour les jeunes peut être financée.
financés par la politique de la ville.
Il y en a sur le quartier, en tout cas.
Il y en a, oui. Et qui peuvent avoir un double financement, puisque la CAF, les caisses d'allocation familiale, financent aussi des dispositifs qui s'appellent CLAS, contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, et qui sont bien des dispositifs qui ont vraiment du sens dans les territoires politiques de la ville, même s'ils sont aussi dans des territoires ruraux ou à d'autres échelles.
Donc on vient financer finalement des actions du tissu associatif.
Oui, ce sont souvent les associations qui mettent en œuvre les actions de la politique de la ville. En fait, en gros, une ville en discussion avec l'État et d'autres financeurs définit un peu les priorités. Et ensuite, il y a un appel à projet qui est lancé et c'est souvent le tissu associatif qui répond et qui vient mettre en œuvre des actions en direction des habitants. Ça peut être autour de l'emploi, des actions par exemple de découverte de métiers, ça peut être des actions d'organiser des forums,
d'activités sportives pendant l'été pour les jeunes,
ça peut être des sorties, ça peut être les sujets sont très larges, ils correspondent à la vie des gens. Donc et la vie des gens, c'est l'emploi, c'est la mobilité, c'est le vivre ensemble, c'est la vie quotidienne, c'est la santé, c'est l'isolement, en fait, c'est tous les sujets qui peuvent, tous les sujets qui font que c'est la vie, quoi.
Alors, ce qu'on oppose, en tout cas dans le débat politique, on est quand même un an après les émeutes. Hein. On aurait pu imaginer que cela réveille la question sociale et celui du traitement social de ce qui se passe pour ces quartiers dits populaires. Force est de constater que ce qui monte, c'est un discours sécuritaire. Une approche sécuritaire sur ces quartiers. Et souvent, ce qu'on entend, c'est mais pareil, cet argument, ça nous coûte un pognon de dingue, en fait. Tout ce qu'on injecte, ça coûte très cher. Et ce qui compte, c'est avant tout de sécuriser. Comment est-ce que vous réagissez à cette bascule du débat public autour des quartiers populaires et de la politique de la ville?
Je pense qu'il y a eu, vraiment, la politique de la ville, depuis 2-3 ans, souffre d'un manque d'ambition.
Est-ce que ça date pas de 2018 et puis le rapport Borloo qui a été
enterré? Il y a eu le rapport Borloo qui a été enterré définitivement. Il y a eu la prolongation une première année des contrats de ville, puis une deuxième année, puis l'année dernière, fin d'année 2023, un comité interministériel des villes qui devait avoir lieu en octobre et puis qui est annulé à la dernière minute. Des élus, des associations d'élus en France qui font des appels. Et sans qu'il y ait véritablement de réponse. Il y a effectivement ce à quoi vous faites allusion, désormais la double tutelle
ministère de l'Intérieur.
Voilà, complètement.
Le fait que la politique de la ville soit rattachée au ministère de l'Intérieur, c'est très révélateur de cette approche sécuritaire dans la gestion des quartiers populaires.
Complètement. Et je pense que c'est aussi une réponse, ça a été une réponse aux émeutes qui ont eu lieu suite à l'assassinat de Naël l'année dernière. Et effectivement, ce qu'on entend, le mot d'ordre, même si il avait été rappelé par Emmanuel Macron qu'il y avait 4 priorités, c'était la question de l'émancipation, et derrière l'émancipation, il y a bien tous les sujets de cohésion sociale. La question de la transition écologique, qui était un non-sujet, quand même, dans les quartiers politiques de la ville, quand on sait que ce sont des passoires thermiques, quand on sait également que le bâti a été très problématique. Enfin voilà, il y a la question de la transition qui est entrée, mais il y a aussi
que les plus pauvres sont les premières personnes à subir, en tout cas, les effets des canicules, du froid, des changements climatiques. Ce sont les premières personnes touchées, hein, rappelons-le.
Complètement. Et nous, on s'est doté d'un observatoire de la data où on croise des données. Et ça, on a pu le vérifier avec 4 villes de nos régions. Et oui, effectivement, la vulnérabilité des habitants des quartiers populaires face au risque canicule est beaucoup plus fort que dans le reste du territoire. Ça manque d'îlots de fraîcheur. Il y a la problématique du bâti. Et puis après, il y a la question de l'usage. De la vie sur ces territoires, quand on n'a pas de jardin, etc. Donc oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler, ce sont les premières victimes, alors même que ce sont ceux qui
contribuent le moins.
Voilà, exactement.
Et oui, moins on consomme, plus on est pauvre, moins on consomme.
Voilà.
Et c'est la consommation qui est au source de ces dérèglements. Vous parliez des priorités politiques qui avaient été définies par la présidence, par Emmanuel Macron à l'époque. Donc il y avait aussi la transition, peut-être qu'il y avait d'autres axes qu'on n'a pas.
Oui, donc la transition, il y a la question de l'emploi qui revient. Avant, c'était, il y avait plutôt un pilier autour du développement économique des quartiers. Là, aujourd'hui, la question de l'emploi, notamment de l'entrepreneuriat, devient une priorité sans pour autant qu'aujourd'hui ça soit complètement affirmé. Et surtout, ce qui a été affirmé, c'est que vraiment la question des contrats de ville, elle doit venir des territoires. Et donc, ce sont les territoires qui doivent pouvoir repérer les difficultés et de pouvoir y répondre, en fait. C'est plus se dire, il y a trois piliers et il faut répondre absolument à ces piliers. C'est de se dire plutôt, on interroge ceux qui vivent dans ces territoires, on interroge ceux qui travaillent dans ces territoires, on interroge ceux qui sont élus dans ces territoires pour définir des orientations. Voilà. Mais malgré tout, oui, vous avez raison de le dire, la politique de la ville, aujourd'hui, en fait, on n'est plus en 2014, où là, il y avait eu la loi Lamy, il y avait eu le rapport Baquet-Meschmasch, et où on avait eu l'impression d'une véritable avancée sur la question de la politique de la ville et que c'était une politique publique qui était importante. Aujourd'hui, en fait, elle est toujours présente, hein, elle n'existe pas, mais elle n'est pas lisible, on en parle peu. Souvent, quand on parle de la politique de la ville, le néophyte pense que l'on parle de la politique sur tout un territoire urbain. Donc voilà, quand je parle de politique de la ville, moi j'ai des amis qui pensaient que je travaillais pour toute la ville de Nantes, par exemple. Et non pas. Donc il y a quand même aussi un déficit de valorisation aussi de ce qui se passe dans ces territoires qui sont aussi riches de solidarité, riches d'initiatives, riches d'un tissu associatif. C'est quand même. Enfin, souvent dans les quartiers prioritaires, vous avez un tissu associatif riche qui maille un territoire et qui permet justement que ces territoires qui sont délaissés, qui sont relégués, permet que la vie elle soit un tout petit peu plus douce. Voilà.
Donc c'est le soutien à tout ce tissu associatif qui permet aussi d'avoir ces solidarités à l'œuvre sur les quartiers populaires, d'avoir des activités de tout ordre pour les personnes qui y vivent, qui est potentiellement menacée par l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Au niveau de Réseauville, Wydad Ayad, vous avez fait paraître un communiqué intitulé « La politique de la ville dans le collimateur du RN ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le contexte politique et électoral là est tout particulièrement inquiétant pour cette politique de la ville qui vise à essayer d'équilibrer un peu les inégalités dans ces quartiers populaires ?
Ben, je pense que ça fait quelques années que le Rassemblement national ne se cache pas pour dire que en fait, les crédits politiques de la ville ne servent à rien, que les quartiers, ce sont des zones de non-droit et que cet argent irait mieux sur des territoires ruraux. Voilà, déjà, on oppose les gens, on oppose les habitants des territoires ruraux et les habitants de zones urbaines où on sait très bien que dans ces territoires, depuis les années 70, on a concentré une population issue de l'immigration. Donc voilà, on sait très bien qui on vise. Et puis après, de manière beaucoup plus...
Alors je précise qu'entre le fantasme et la réalité aussi, il y a les personnes d'origine étrangère, mais les personnes de nationalité étrangère dans un quartier comme Bellevue, par exemple, c'est 21%.
Oui,
ça veut bien dire qu'on a 79% de personnes françaises. C'est du habitat d'HLM, mais quand on stigmatise ces quartiers avec une certaine étiquette, on est sur une vision qui est associée purement à cette image de l'immigré profiteur. On est dans une vision, bien entendu, très caricaturale et éloignée de la réalité.
Complètement. Et en même temps, le Rassemblement national prévoit de revenir sur le droit du sol. Donc, ces personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires ou ailleurs, demain, lorsqu'elles auront des enfants, puisque ce sera une question de droit du sang, elles resteront personnes d'origine étrangère. Et ce qui est ce qui est plus
avec
grave,
des accès aux droits,
avec des
restreints.
Accès aux droits limités, puisque ce qui a réussi à sanctuariser le Rassemblement national, hein, en écrivant un mythe puissant sur une France assiégée par les étrangers, c'est que il faut pouvoir mettre en place la préférence nationale.
La préférence nationale, ça veut donc dire accès à l'emploi, accès aux soins médicaux conditionnés ou restreints pour les personnes étrangères.
Complètement, et aussi l'accès aux prestations sociales, comme la caisse d'allocation familiale, enfin les APL, etc. Enfin, c'est quand même une politique super violente qui rompt un principe, de constitutionnel qui est celui de l'égalité républicaine.
C'est pour ça qu'a priori, d'ailleurs, ces mesures ne peuvent pas passer sans réforme constitutionnelle.
Complètement, mais on a pu entendre ici et là qu'il y aurait une réforme constitutionnelle pour justement permettre de remettre en question ces droits. On a entendu parler aussi des binationaux qui ne pourraient plus prétendre à certains postes stratégiques en France. Après, j'ai envie de revenir sur les quartiers prioritaires. Marine Le Pen ne s'était pas cachée en 2022, pardon, lors de la campagne de supprimer la loi SRU.
Alors, la loi SRU, c'est la loi sur le renouvellement urbain qui impose un quota de 20% de HLM dans les nouvelles constructions partout en France avec un suivi territorial. Ça a déjà été un petit peu enfoncé, en tout cas en termes d'obligations récemment. C'est quelque chose qui permet à la fois de rendre l'accès au logement plus possible avec de la construction HLM, mais qui c'est aussi une loi qui a pour ambition de favoriser de la mixité, c'est-à-dire des HLM qui soient potentiellement répartis et non plus concentrés sur certains quartiers pauvres. Ça, il y a une remise en question très forte, voire totale, du RN sur cette loi.
Complètement. Ça a été clairement énoncé que la loi SRU serait remise en question. Vous avez raison. Elle a commencé à être un peu écornée là sous le gouvernement Attal. Mais pour autant, pour le moment, il n'y a pas eu de législation qui le pose véritablement. Là, on parle de suppression simple de cette législation. Et les mois précédents, quand on a entendu parler de remise en question de la loi SRU, il n'était pas question de la supprimer, mais plutôt de mettre en place de nouvelles dispositions. Et c'était plutôt sur le type de logement.
Logement intermédiaire.
Voilà. C'était sur ce type de spécificité. Là, on parle de remise en question totale. C'est-à-dire que on est déjà dans une forme de ghettoisation. On est déjà dans une vie non mixte. Lorsque vous vivez à Bellevue, vous vivez avec des gens qui rencontrent les mêmes difficultés que vous, avec l'école dans le quartier.
Vous parlez des écoles, justement, et un élément phare du programme du Rassemblement national, c'est aussi de s'attaquer et de remanier le réseau d'éducation prioritaire.
Complètement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est prévu dans le programme du RN sur ce champ ?
Alors, ce qui a été annoncé par le monsieur Éducation nationale du Rassemblement national là, sur les ondes ces dernières semaines, c'était que, tout simplement, les REP allaient être supprimés. Les REP+, c'est allait être maintenu. Donc là, c'est des territoires. C'est pas un dispositif de la politique de la ville, donc je ne le maîtrise pas complètement. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que pour les territoires REP, où ça permet, sur certains territoires, où on sait très bien que les problématiques sociales, économiques, elles se concentrent, de doter des écoles de moyens supplémentaires.
Pouvoir dédoubler les classes de CP, de CE1, avoir un peu plus de professeurs, de moyens pour de l'accompagnement sur des écoles. Et là, donc, le Rassemblement national veut s'attaquer à une partie, aux premières échelles de cette fusée-là.
Complètement. Les REP, et puis après, il y a tout ce dont on a entendu parler. C'est effectivement, en CM2, on oriente les gamins. Enfin, il y a une évaluation qui est faite, et puis il y a les enfants qui vont vers de l'enseignement général, et puis d'autres vers de l'apprentissage.
La fin du collège unique.
Voilà, donc c'est affligeant. Et puis le redire que, je pense que c'est important de le redire, que les moyens qui sont affectés au REP, et il y a des études qui le démontrent, ça a été fait par le compte, c'est un investissement porteur qui est fait, mais qui ne suffit pas, puisque de toute manière, ils n'arrivent pas à compenser. En fait, on vise l'équité. On essaye de viser cette équité. Mais les moyens, il faudrait qu'ils soient colossaux pour pouvoir rétablir véritablement une égalité des chances.
L'accès, vous le disiez, hein, donc il y a les questions éducatives, celle de l'accès au droit, à la nationalité, aux papiers pour les habitants des quartiers populaires, mais éventuellement aussi aux soins, l'aide médicale d'État qui est dans le viseur du Rassemblement national. Et puis côté politique de la ville, si on revient là-dessus, Wydad Ayad, parce que c'est votre cœur de métier, je rappelle que vous êtes directrice de Réseau Ville, Centre Ressources Bretagne, Pays de la Loire sur ces enjeux. Est-ce que le RN a déjà un positionnement sur les crédits politique de la ville, c'est on supprime tout et puis on reverse ça aux territoires ruraux au nom de...
Alors aujourd'hui, en fait, ce qui est sûr, c'est que ça a déjà été énoncé. Aujourd'hui, enfin, moi, quand j'ai fait des recherches un peu sur le programme du Rassemblement national, n'est pas très clair. Ce qui a été posé clairement, c'est vraiment la question de la préférence nationale pour les prestations sociales, la question de l'accès à l'emploi, la suppression de la loi SRU, la suppression de ce qu'ils appellent la discrimination positive pour les gamins qui sont boursiers pour l'accès aux grandes écoles.
Enfin, ça, typiquement, c'est... on veut intégrer Sciences Po, et bien il y a des filières particulières pour les jeunes boursiers, pour ceux qui sont issus des quartiers populaires, pour adapter des épreuves ou en tout cas avoir certains quotas et favoriser une mixité qui, pour l'instant, n'existe pas du tout dans ces grandes écoles.
Complètement. Et ça, c'est pareil, ça a été clairement annoncé. En revanche, ce que l'on peut observer, c'est tout simplement en regardant les 10 villes qui sont aujourd'hui dirigées par le Rassemblement national. Et là, dans ces territoires, dans ces 10 territoires, dans ces 10 villes qui sont dirigées par le Rassemblement national, l'on constate un désengagement très fort sur la politique de la ville, mais la politique sociale. Un exemple, à Fréjus, le dernier centre social, donc nous sommes dans un centre social, n'existe plus depuis l'année dernière. Dans d'autres territoires, on a par exemple pour la cantine scolaire qui pouvait être gratuite ou pas très chère pour les familles les plus pauvres. Et ben c'est un dispositif qui a été supprimé. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans ces territoires qui sont dans ces villes qui sont dirigées par le Front National, la politique sociale, elle est cassée. Enfin, il y a une casse aussi des services publics, un désengagement dans les services publics, des piscines privatisées, enfin des piscines publiques qui sont privatisées, etc. Donc voilà, on voit bien que le Rassemblement national, lorsqu'il est au pouvoir, il y a une véritable casse sociale. Et donc, dans des territoires qu'ils appellent, enfin les quartiers politiques de la ville qu'ils appellent des zones de non-droit, on peut bien imaginer que ce sera terrible.
Quelle mobilisation du réseau des centres ressources politiques de la ville, des acteurs de la politique de la ville pour le moment par rapport à ce contexte politique qui menace toutes vos actions et...
Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que des associations font comme nous et diffusent des communiqués de presse et alertent sur le risque de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. En revanche, la majorité des centres de ressources politiques de la ville sont des groupements d'intérêt public. Et donc là, évidemment, ils dépendent directement de l'État. Donc ils ont un devoir de réserve. Notre... Donc c'est difficile de le dire. En revanche, ce qui est fait, c'est plutôt sur le terrain. C'est la mise en place de journées autour de l'interculturalité, sur la question de la lutte contre les discriminations, sur la question de l'éducation à la citoyenneté, ne serait-ce que le vote. C'est plutôt un travail sur le terrain, un travail d'accompagnement et des élus et des agents sur ce qui nous semble essentiel à sauvegarder.
Donc en fait, les habitants des quartiers populaires sont à la fois les premiers concernés par les mesures qui pourraient être mises en place par un pouvoir aux mains du Rassemblement national. Et en même temps, il y a un taux d'abstention qui est quand même assez important. Est-ce que vous arrivez à comprendre un petit peu ce delta et la perception qu'ont les habitants eux-mêmes du danger actuel ?
Alors, à la sortie des élections européennes, nous avons fait un travail, on travaille sur les datas. Et donc, on allait regarder un peu comment votaient les territoires politiques de la ville dans nos deux régions, en comparant cela aux résultats nationaux. Alors, Il y a deux choses à retenir, mais là, on est sur un niveau interrégional. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner des données spécifiques sur Bellevue. En revanche, le taux de participation, en fait, on a souvent une représentation sur un taux de participation qui serait très faible dans les quartiers prioritaires. En fait, il est inférieur de 2 points à la moyenne nationale.
Pour les européennes.
Pour les européennes. Donc, on n'a pas encore étudié les données sur le premier tour des législatives. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que ce sont des territoires qui votent plus souvent à gauche. Voilà. Après, il y a de véritables disparités. On peut, par exemple, prendre l'exemple de Nantes. Et effectivement, Nantes, qui est une ville qui vote majoritairement à gauche, dans les QPV, on s'aperçoit que ça vote un peu plus Rassemblement National, ou que le taux d'abstention est plus faible. Après, si on regarde d'autres territoires où le vote RN peut être un peu plus important, des plus petites villes, où le vote RN peut être plus important, ce dont on s'aperçoit, c'est que les QPV votent majoritairement sur les listes de gauche. Voilà. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de choses un peu à revoir. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émissions sur la Seine-Saint-Denis, où ça ne vote pas beaucoup, etc. Mais malgré tout, nous, on est allé regarder ces chiffres pour justement avoir des éléments un peu objectifs et objectivables. Et finalement, le taux de participation n'est pas si éloigné. Même si, je le reconnais, il peut y avoir des disparités fortes entre territoires.
Et sur la manière dont vous le disiez, y a toute une part des centres ressources politiques de la ville qui sont tenus par un devoir de réserve en tant qu'acteur public. Ce n'est pas votre cas à Réseauville. Vous avez cette possibilité d'alerter sur le risque d'une prise de pouvoir du Rassemblement national. En cas de majorité relative du Rassemblement national, qu'est-ce que vous craignez, ou est-ce que vous êtes déjà en train de penser le coup d'après en termes de mobilisation ?
Alors, en tant que centre de ressources, là, on est tous, je pense, dans une forme de gestion de crise. Donc, on est tous un peu galvanisés dans cette gestion de crise. Ce qui est certain, c'est que on a essayé de faire avancer le plus possible nos contractualisations, nos contrats avec l'État, pour justement se dire qu'on a la capacité de tenir encore un peu. Donc voilà, donc on a...
De sécuriser l'existant au maximum,
voilà.
Et boucler les dossiers...
Complètement. Et c'est super important de sécuriser les 6 prochains mois ou l'année à venir sur un plan financier. En fait, chaque année...
Ça va être revoté, ça dépend du budget général.
Complètement. Chaque année, le gouvernement revote le budget. Et,
donc là, on sait jusqu'à fin 2024, l'année 2024, mais dès 2025, les remises en question peuvent tomber dans 6 mois. Voilà.
Exactement. C'est quand, lorsque vous signez une convention, avec que ce soit avec une collectivité ou avec l'État, en fait, même si vous signez une convention de 3 ans, elle est soumise au vote de l'exercice budgétaire. Donc... là, on est dans un moment d'instabilité et d'incertitude fort. Donc non, on peut se dire que jusque fin 2024, on est assuré de la sanctuarisation de nos crédits. Après, tout dépendra des résultats de lundi et puis de ce qui va être mis en œuvre. Parce que tout n'est pas complètement annoncé. On nous parle... s'il y a une majorité relative, est-ce que ça va être un gouvernement technique ? Est-ce que ça va être ce gouvernement-là qui va être prolongé ? C'est assez difficile d'imaginer la suite. Après, nous, ce que l'on sait en tant qu'association, puis une association qui a aussi une particularité, c'est que le bureau et le conseil d'administration de cette association, il est composé des élus des collectivités. Aujourd'hui, le président de Réseauville, c'est Pierre Kenéa, qui est vice-président de Nantes Métropole. La vice-présidente, c'est Nathalie Gosselin, qui est élue LR à La Roche-sur-Yon. Donc il y a aussi une pluralité ils viennent tous d'horizons politiques très divers et ils décident, parce qu'ils ont cette délégation politique de la ville, ils décident d'œuvrer ensemble. Donc on a aussi cette cette culture.
Coloration.
Ouais, cette coloration et de se dire que en fait, ce qui nous, ce qui les rassemble, c'est vraiment la question de la politique de la ville et de poursuivre l'idéal d'égalité républicain pour ces territoires, ben où très clairement, ben, l'égalité, elle est pas. Elle n'est pas là de fait, quoi.
Donc, dans ce que vous faites dans l'immédiat, eh bien, c'est appeler au vote, à la mobilisation, alerter très concrètement sur les conséquences d'une majorité RN, sécuriser les dossiers autant que possible au niveau financier. Est-ce que vous avez encore d'autres types
de... Hier, on a organisé une journée sur l'interculturalité à Rennes, où il y avait plus de 150 personnes qui étaient là, donc qui venaient de toute la région. Les gens venaient de Brest, Laval, Nantes, Quimper, et donc c'était et des élus, et des agents de l'État, et des agents des collectivités locales qui venaient échanger sur la question de l'interculturalité et en quoi l'interculturalité était une plus-value pour notre société.
Là, on est vraiment sur le fait de présenter des contre-mythes, des contre-discours à celui du grand remplacement de cette, enfin de cette, de ce parallèle qui est fait entre immigration, sécurité, c'est de montrer, à contrario, la richesse, la diversité de ce melting pot culturel.
Complètement. Et c'est de se dire que, en fait, l'interculturalité, c'est de se dire qu'en fait, c'est la question du partage, de la communication, de l'échange entre personnes qui viennent de différentes cultures. C'est vraiment une politique de cohésion et d'intégration, mais dans le respect de la diversité. C'est-à-dire que chacun et chacune est respecté dans son identité et ses coutumes sont également respectées. Sans pour autant imposer aux autres de perdre leur identité. Et nous, on est en train d'essayer, et notre objectif, c'est de vraiment construire un contre-récit. Et je crois que collectivement, on est capable de construire un contre-récit qui puisse faire valoir que oui, effectivement, la question de l'interculturalité, c'est une chance que une société qui se replie sur elle-même sans aucune interpénétration et sans échange aucun, elle se meurt en fait. Et effectivement, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un mythe, enfin que le Rassemblement national a réussi à faire en sorte que son mythe soit admis par tout le monde. Et je crois que vraiment, c'est ça notre mission. Ça va être la question de comment on construit un contre-récit et comment ce contre-récit va pouvoir se diffuser dans notre société pour faire comprendre que c'est vraiment une chance pour l'humanité, enfin, et une chance aussi et une chance pour la paix en fait, et aussi en fait je crois que quand une culture elle est niée dans ce qu'elle apporte à l'universel, ben la violence elle est pas loin, et donc c'est notre rôle vraiment d'aller de participer à la construction de ce contre-mythe. Et je crois qu'hier toutes les personnes qui étaient là étaient d'accord sur ce constat. Et ça ne s'arrêtera pas au 7 juillet. Et je crois aussi que nous, les acteurs, les acteurs de la société, enfin, la société civile, je crois qu'on s'est un peu endormi ces dernières années. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a oublié. On est dans cette logique d'aller chercher nos subventions, de reconduire nos actions, de continuer à les faire vivre. Mais on ne s'est pas reposé la question de l'essentiel, en fait. C'est quelle histoire on a envie de raconter, quelle histoire on a envie de construire ensemble, en fait. Et souvent, enfin, je pense que vous le constatez, puisque vous êtes un acteur aussi dans un quartier populaire, on voit que on est sur des thématiques différentes, on se rencontre peu, et là aujourd'hui en fait, enfin ces dernières semaines, on a pu voir que la société civile, elle était capable de beaucoup en fait. C'est comme la société civile qui à un moment donné a permis un front populaire puisse se créer. C'est quand même parti des gens en fait, enfin des gens qui œuvrent au quotidien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu mis de côté. On avait un peu oublié d'agir ensemble en fait.
Et de créer des rencontres entre ces acteurs et qui ne passent pas par les écrans, a fortiori par certains hein, qui sont, on le voit désormais, très orientés en faveur du Rassemblement national. Merci justement, Wydad Ayad, d'être venu porter ce contre-récit humaniste sur les ondes de Jet. On va continuer et en espérant que voilà qu'on aura l'occasion de ensemble de le faire, à parler de ces sujets à l'antenne de Jet avec j'espère un grand plateau à la rentrée autour de ces enjeux. C'était donc une entrevue avant-goût et puis dans l'attente bien entendu des résultats de ce dimanche. Merci déjà d'avoir pris ce temps.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale
et citoyenne. Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.